Pour changer le monde, affiche des mouvements sociaux au Québec 1966-2007. C'est le titre d'un ouvrage assez ambitieux et fort intéressant qui rassemble plus de 650 affiches politiques et culturelles, dont plusieurs sont, Dieu merci, reproduites en couleur. Des affiches qui proviennent de la collection du Centre de recherche en imagerie populaire, le CRIP, attaché au département de communication de l'Université du Québec à Montréal. Pour nous parler de cet ouvrage, Jean-Pierre Boyer, un des auteurs et cofondateurs du CRIP, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et deux collaborateurs qui ont signé des textes de présentation. Normand Baillargeon, donc, qui était avec nous tout à l'heure. Rebonsoir, Normand. Ouais. Et Francis Dupuis-Déry, lui aussi professeur à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Boyer. Qu'est-ce que le CRIP exactement?
Oui, le Centre de recherche en imagerie populaire est un centre qui se consacre à l'archivage, à la mise en valeur et à la diffusion des affiches provenant des mouvements sociaux.
Donc, et que des affiches?
Les affiches surtout parce que c'est le médium le plus utilisé dans la conversation démocratique dont parlait Normand tout à l'heure. Mais il y a aussi des bannières, des stickers, des macarons, des t-shirts, toutes sortes d'objets, toutes sortes d'artefacts qui sont utilisés dans le contexte des luttes sociales, des mobilisations sociales.
Et ça, c'est essentiellement pour... Bon, vous parlez d'archivage, mais est-ce que c'est essentiellement pour faciliter l'étude de ces artefacts? Parce que j'imagine qu'ils sont aussi conservés aux Archives nationales, non?
Non.
Tous ces objets?
Non.
Non?
Non, ces images ne sont pas conservées.
Chez la police, peut-être.
Par les grandes institutions.
Mais pas la bibliothèque.
Oui, effectivement, les forces policières avaient ramassé, c'est une petite anecdote, durant la crise d'octobre, les affiches qui étaient sur les murs des militants et avaient aussi émaillé les bibliothèques, avaient ramassé des livres dans les bibliothèques, et notamment des livres sur le cubisme, en pensant que les gens en question étaient des sympathisants de Cuba. Alors on retrouve effectivement...
C'est une légende urbaine, ça.
Non, c'est pas une légende urbaine.
C'est
une vraie histoire.
Donc, juste pour poursuivre sur la parenthèse, les affiches, j'imagine, allaient leur servir de pièce à conviction, éventuellement.
Exactement, pour documenter à leur manière les mouvements sociaux.
Donc, mis à part la police, les archives nationales
ne documentent pas ces images-là.
Et c'est là toute la pertinence du CRIP.
Nous, ça fait 30 ans que l'on collige ces images, qu'on les ramasse, et dans le but de reconstituer une histoire sociale du Québec. Et ce sont des images qui sont éphémères, qui sont produites dans le contexte d'événements et qui sont utilisées à des fins de mobilisation, mais aussi de dénonciation, de mise en valeur d'objectifs, d'idéaux poursuivis par des individus et des groupes. Mais après les événements, souvent ces images-là sont perdues, sont oubliées, donc elles n'existent plus. Donc c'est pour conserver une mémoire visuelle des mouvements sociaux au Québec que nous avons commencé ce travail.
Une cartographie, en fait, de la société civile.
Oui, exactement, parce que les mouvements sociaux que l'on retrouve, enfin, dont les affiches des mouvements sociaux que l'on retrouve dans le livre constituent véritablement, comme vous dites, une cartographie de la société civile et d'une société civile indépendante des pouvoirs d'État et des forces du marché. C'est ce qui fait sa spécificité. C'est sûr qu'il y a des relations entre les groupes qui sont représentés, et les gouvernements et aussi les entreprises, parce que on vit dans une même société. Mais ce qui fait la particularité de ces groupes, c'est qu'ils constituent une société civile indépendante des pouvoirs de l'État et des forces du marché.
Francis Dupuis-Déry, Normand Baillargeon, vous avez dû, bien sûr, regarder ces affiches, les analyser. Vous qui lisez beaucoup de livres, qu'est-ce que les affiches racontent que les livres ne racontent pas?
C'est un objet éphémère, comme on le disait. J'ai été amusé de lire dans l'introduction en passant que parmi tous les groupes sociaux que vous avez consultés, c'est les anarchistes qui tenaient le meilleur compte, qui tenaient le mieux en ordre leur passé puis leurs affiches. Un des préfaciers dit ça. Mais ça raconte, et c'est intéressant de le noter, mais ça raconte quelque chose qui est à la fois éphémère, mais qui est aussi notre vie collective, notre passé. C'est fascinant de voir, moi dans mon cas j'avais des affiches politiques, c'est fascinant de voir sur une longue durée comment se transforme le médium, comment l'ensemble des codes que mettent ces affiches-là. Tu sais, c'est un code de texte, un code écrit, c'est un code d'image, c'est un code de symbole. Alors ça se transforme au fil du temps. C'est à la fois donc éphémère, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée quand on les prend dans un ensemble comme on a eu à le faire Donc, mm-hmm. Francis et moi.
Normand, vous l'avez dit, vous avez introduit, en fait, vous signez le texte qui sert d'introduction au chapitre consacré aux affiches politiques. De votre côté, Francis Dupuy-Déry, vous avez signé celui qui introduit les affiches des groupes de pression. Qu'est-ce que les affiches racontent? Qui est unique?
Ouais, moi, j'aimerais dire, premièrement, ça revient un peu... c'est une façon de répondre à la question que j'étais très ému d'être approché pour participer à ce livre-là, parce que je trouve que c'est un projet vraiment d'une grande valeur. Premièrement, c'est très beau. C'est un livre qui est bien fait. Bon, la résolution, évidemment, est importante, parce que c'est l'illustration. Et là, on a quelque chose de... Un bel objet qui est à un prix relativement abordable. Donc, ça c'est bien. Et puis... c'est toute l'histoire, en fait, du Québec des deux dernières générations qu'on voit passer en feuilletant les pages, parce que c'est ça, les affiches, c'est de ça qu'elles parlent. Elles parlent des mobilisations, elles parlent des luttes, elles parlent des enjeux de cristallisation des conflits sociaux. Donc là, on a le mouvement des femmes, on a le mouvement indépendantiste, on a le mouvement étudiant, on a le mouvement écologiste. Mouvement contre la guerre. Et là, on réalise que tous ces mouvements-là ont une histoire, le mouvement contre la guerre, des manifestations dans les années 70, c'est pour ça qu'en 80, c'est le nucléaire, et ça se transforme selon les... Après ça, évidemment, il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak. Donc là, on voit qu'il y a toujours des gens qui se mobilisent sur des enjeux, mais que les axes de lutte changent un peu. Il y a la représentation qu'on voit. Des fois, on décide plutôt de représenter les victimes, comme dans le cas de la guerre, par exemple, ou plutôt les gens qui manifestent ou qui sont actifs. C'est un appel à l'action aussi, l'affiche. Mm-hmm. Et donc, c'est une très belle façon... de revisiter, en fait, l'histoire du Québec là, des 30-40 dernières années.
C'est ça, vous dites que ces groupes, excusez-moi Normand, ont une histoire, mais en fait, ils participent à l'histoire, exact, avec un grand H. C'est ça qui est intéressant.
Et si je peux ajouter une chose par rapport aux affiches, qui est intéressant aussi, c'est que les mouvements sociaux en général, quand on est consommateur de nouvelles, des médias de masse, donc que ce soit la télévision, la radio ou les journaux, ou même des livres d'histoire en général, les mouvements sociaux ont généralement une faible part. On leur porte peu attention, à moins qu'ils fassent quelque chose de vraiment spectaculaire. Souvent, ils vont être un peu stéréotypés, schématisés. On va leur accorder une attention un peu... on les présente souvent comme quelque chose de folklorique, mais on dit mm-hmm. rarement ce qu'ils veulent dire.
On les caricature.
On se fait rarement le relais de leurs paroles, mm-hmm. alors qu'évidemment, mm-hmm. pour les politiciens ou pour d'autres acteurs politiques, c'est tout différent. Et là, évidemment, l'affiche, ben, c'est leur voix. C'est-à-dire, évidemment, c'est une voix très simplifiée d'une certaine manière, parce qu'ils parlent autrement aussi dans des communiqués, dans des messages, dans des textes d'analyse. Mais là, on a la parole de certains groupes qui sont souvent, d'une certaine manière, des sans-voix dans les médias officiels.
Mais des sans-voix qui ont un énorme impact, puisque, comme je le disais, on réalise que l'histoire n'est pas écrite que par les grands hommes et les grandes femmes. Là.
Effectivement. Ce qu'on trouve, en fait, pour reprendre ce que Francis disait, on trouve inscrit dans ces textes-là, on trouve inscrit dans ces affiches à la fois les espoirs que les gens ont portés, l'imaginaire, les aspirations qu'ils avaient, les luttes qu'ils ont eues. Puis il y a des aspects des affiches. Francis a eu raison de le souligner, c'est un livre très beau. Hein, les reproductions, beaucoup de reproductions sont en couleur sur un papier.
Oui, on aurait souhaité
qu'il
y en ait plus de couleurs, mais évidemment, c'est une question de budget.
Mais même les affiches en noir et blanc sont très bien reproduites.
Absolument, absolument. Et vous avez pris soin de choisir celles qui allaient être imprimées en couleur, c'est-à-dire de s'assurer qu'elles ne perdaient pas de leur qualité, trop de leur qualité esthétique et surtout didactique. Là.
Je pense qu'il est important, c'est important de souligner un peu dans le prolongement de ce que Normand vient de dire, que ce livre-là démontre le rôle fondamental des mouvements sociaux dans les transformations historiques au Québec. Donc, au fond, il y a lieu de distinguer l'histoire officielle, qui est habituellement celle des grands hommes ou des vainqueurs, parfois on dit. Hein. L'histoire, c'est l'histoire racontée par les vainqueurs. Alors que dans ce cas-ci, on a une histoire vue sous l'angle des mouvements sociaux, c'est-à-dire des mouvements, des actions collectives visant un changement social, culturel, politique dans une société donnée. Alors, le livre démontre aussi l'importance de l'histoire sociale comme n'étant pas le fait des grands hommes, mais comme étant le champ de bataille des mouvements sociaux.
Donc, on parlait de propagande tout à l'heure, Normand Baillargeon. Est-ce que l'affiche, en fait, ce qu'elle porte, peut changer le monde?
Les affiches ont contribué à changer le monde. Ils sont un élément de la grande conversation démocratique qu'on tient. Je tiens à dire aussi que quand j'ai lu ces affiches-là, il y a quelque chose d'émouvant à voir certaines des affiches, parce que c'est des affiches qui sont faites par des groupes qui sont souvent minuscules, tout petits, et qui travaillent à la main. C'est de l'artisanat qu'on trouve devant
Absolument.
Ces gens. Alors, certaines des affiches-là sont en grande diffusion, ont été faites par des professionnels, mais d'autres sont des affiches qui sont faites par des groupes qu'on devine minuscules, petits, qui travaillent de manière très artisanale. artisanal, tu comprends? Ça, c'est une première chose. Puis vous me posez la question de savoir est-ce qu'il participe de la grande histoire puis des combats sociaux. Oui. Puis quand on regarde ce livre-là, on se rend compte que sur beaucoup de plans, des gains ont été accomplis et puis ont été accomplis par les combats dont témoignent ces affiches. Alors, il y a un paquet de plans sur lesquels la sensibilité contemporaine, celle qui est la nôtre aujourd'hui, la façon dont la plupart des gens envisagent le monde, ben, il y a seulement 20 ou 30 ans, ces choses-là étaient au cœur des combats que menaient certaines personnes, qui étaient dénoncées comme des utopistes ou des gens qui savaient pas trop de quoi ils parlaient. Puis on se rend compte que, à travers des mouvements parfois minuscules, des affiches artisanales, des combats de terrain, c'est la partie émouvante du livre, je trouve, de nous rappeler que ces combats-là étaient menés, puis des victoires ont été remportées. Ça, je trouve ça extrêmement important. C'est un livre qui donne d'espoir de ce point de vue-là.
Francis Dupuy-Déry, l'affiche peut changer le monde?
Oui, ben, elle participe des luttes politiques et elle participe, on pourrait dire, on a parlé tout à l'heure de la propagande commerciale, par exemple. En ce moment, dans une grande ville comme Montréal ou dans les grandes villes comme Québec, qui contrôle les murs? C'est les compagnies privées. Je veux dire, il y a des panneaux et eux, ils s'affichent. Les compagnies privées s'affichent. Les partis politiques s'affichent, évidemment, quand il y a des campagnes électorales. Les gouvernements s'affichent. Et donc, les militants et militantes, ben, ils cherchent aussi à occuper l'espace public. Évidemment, la plupart de ces affiches appellent à des manifestations, c'est-à-dire vraiment appel aux gens à descendre dans la rue et à manifester. Mais d'une certaine manière, l'affiche elle-même, dès qu'elle est posée sur le mur, on pourrait dire que la manifestation est déjà commencée puisque le groupe, le message manifeste dans l'espace public. Et puis souvent, ben, elle va continuer à manifester à travers cette affiche-là après que la manifestation se soit dispersée ou a été dispersée, puisque l'affiche va rester jusqu'à ce qu'un nettoyeur l'enlève ou que la pluie la décolle. Quoi.
Donc l'affichage en soi est une forme de manifestation.
Oui, c'est un message politique, mais dans le même esprit que les compagnies privées veulent afficher leur message sur les murs de la ville. Occuper l'espace public, l'affiche a aussi ce rôle-là.
Mais si l'affiche est démocratique, l'affichage l'est pas tellement, non. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup d'affichage politique. Est-ce que c'est parce que c'est pas toléré, Jean-Pierre Boyer?
Ben, c'est-à-dire, c'est toléré si on paye pour. Hein? C'est-à-dire que je constate, par exemple, que dans le métro, maintenant, il y a de la publicité sur les tourniquets. Alors, pourrait-il y avoir des affiches à caractère social et politique? Ça ne resterait pas là très, très longtemps. Mais à partir du moment où on paye, on a le droit d'occuper l'espace public. Et c'est à géométrie variable, parce que si des poseurs d'affiches vont coller, par exemple, le soir, des affiches institutionnelles sur les murs, la police les laisse faire. Mais si c'est pour coller des affiches politiques, à ce moment-là, c'est risqué, parce qu'on peut se faire arrêter et aller en prison.
Ça, donc, vous l'avez observé, ça?
Ben, bien sûr, bien sûr.
Non, mais c'est les règlements municipaux, là. Il peut avoir une contravention, on peut avoir une contravention, on peut être...
Oui, mais il y a une tolérance pour les affiches institutionnelles et commerciales, mais tolérance zéro pour les affiches à caractère politique.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on parlait d'artisanat tout à l'heure? Bon, ça reste peut-être accessible, faire une affiche, mais bon, l'afficher, c'est autre chose. Ça coûte une fortune, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un mouvement social qui n'a pas les moyens de se payer ses espaces publicitaires ou ses espaces privés?
Les mouvements sociaux, les mouvements de lutte sociale ont toujours fait la même chose. Ils se sont pris en main puis ont fait des choses. Hein? Alors, c'est vrai, sérieusement, tous les militants ont collé des affiches. J'en ai collé, t'en as collé aussi... C'est artisanal parfois dans sa conception, puis les choses
doivent, et dans sa diffusion
et dans
aussi.
Sa diffusion, on fait les choses. Ces mouvements-là font les choses par eux-mêmes, c'est-à-dire ils n'ont pas de subventions, ils n'ont pas de permission.
C'est des volontaires généralement qui ont posé
des bénévoles
qu'on voit là.
De la même manière que les journaux alternatifs sont faits par des bénévoles, les affiches sont faites, composées, véhiculées, imprimées, puis par des bénévoles.
Et encore, une affiche est un moyen relativement accessible à des gens, à des groupes qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas subventionnés. Alors, on peut faire des affiches en photocopie aujourd'hui et ça coûte à peu près 10 sous ou 25 sous, un petit peu plus si c'est en couleur. Au fond, l'affiche s'est développée et elle est l'expression organique des mouvements sociaux dans la mesure où c'est un moyen accessible. Si c'était pas l'affiche, c'était les petits journaux. Hein? Quand c'est pas les petits journaux, éventuellement c'est une radio communautaire, une radio alternative. Et là, plus récemment, des sites internet, des blogs. Hein? Mm-hmm. Donc des moyens à la disposition des gens. Mais le rapport de force entre les groupes sociaux et les États et les entreprises est tout à fait en déséquilibre.
Mais le seul problème avec les journaux alternatifs ou même les sites Internet alternatifs, même si évidemment ils ont une toute autre diffusion, c'est que généralement ils sont consultés par des gens qui soient des sympathisants, soit déjà des convaincus, qui peuvent aller chercher de l'information évidemment qu'ils n'ont pas sur un rassemblement, par exemple. Alors, on a de la difficulté à aller chercher d'autres types de personnes. Mmh. Évidemment, l'espoir de l'affiche qu'on affiche dans la rue, qu'on affiche sur la rue Sainte-Catherine ou sur le boulevard Saint-Laurent, l'espoir, évidemment, c'est de toucher des gens qu'on toucherait pas par les réseaux de diffusion, disons, des convaincus, des sympathisants. C'est d'aller chercher d'autres personnes qui n'ont pas cette information, qui vont se sentir appelées. évidemment, c'est pas toujours un grand succès. La manifestation peut être simplement composée de quelques centaines de personnes. Puis quand on regarde, on dit, bon, ben, c'est les vieux de la vieille ou c'est les mêmes personnes que d'habitude, à part quelques nouvelles personnes. Mais évidemment, l'affiche, c'est cet espoir-là. C'est d'aller chercher, de rejoindre d'autres personnes. Et s'ils viennent pas à la manifestation, évidemment, c'est au moins de dire, on a posé la question dans l'espace public qu'il y a un problème, par exemple, par rapport à la guerre, par rapport à la pauvreté, par rapport à la condition des femmes ou par rapport à d'autres enjeux comme la brutalité policière.
Est-ce qu'on devrait pas donc réserver des espaces publics à l'affichage social et politique? Ça vous fait rire, Normand Baillargeon?
Je me demandais comment s'appelaient ces fameuses colonnes à Paris où les affiches étaient posées, les colonnes rondes. On pourrait avoir des lieux d'affichage public. Il y avait ça en Chine communiste, hein, comment on appelait ces murs
d'Azibao,
sur lesquels on pouvait exprimer des choses. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'en ce moment, compte tenu de la propagande dont on parlait tantôt, ceux qui sont capables de s'accaparer l'espace public sont ceux qui peuvent payer les publicitaires qui leur conçoivent des annonces. Par exemple, le métro, c'est un très, très bel exemple de ça maintenant. Hein. Vous avez vu que les affiches je peux encore faire jaser.
Oui, et on va en discuter tout à l'heure avec Brigitte Hemkens. L'affiche de sa pièce de théâtre Blasté a été refusée, en fait, par la STM, la Société de transport de Montréal, qui la jugeait dangereuse.
Comme quoi l'affiche peut encore faire réagir.
mais c'est pas bête, non? On pourrait pas, comme idée, on pourrait pas réserver des espaces publics à l'affichage? Jean-Pierre Boyer?
Oui, bien, à Londres, il y a une place qui s'appelle Speaker's Corner, où les gens montent sur une boîte de bois et haranguent la foule, puis ils tiennent un discours public. Alors, c'est devenu une institution. Ce serait intéressant qu'on ait un peu l'équivalent. Parce qu'au fond, ce qui est en cause ici, c'est la participation à l'exercice démocratique. On parlait tout à l'heure de la conversation démocratique. C'est quelque chose qui est à géométrie variable selon qu'on a les moyens de se manifester de façon commerciale ou institutionnelle ou de façon sociale.
Parce qu'il y a des messages qui restent à faire passer. On soulignait tout à l'heure qu'il y a des causes qui ont extraordinairement bien avancé. Il y en a d'autres où le message passe moins. Je pense à l'environnement. Et ça, c'est très intéressant quand on regarde les affiches. Bon, évidemment, les cibles changent. Dans les années 70, on s'attaquait au nucléaire. Dans les années 80, les plus acides. Aujourd'hui, c'est des gaz à effet de serre. Mais le message n'a pas l'air de passer, là.
C'est-à-dire, c'est intéressant que vous souleviez la question de l'environnement. Ici, j'ai noté qu'en 2005, l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique, la QLPA, a été l'objet d'une poursuite de 5 millions par une entreprise. Alors, ça s'appelle maintenant les SLAP, hein, c'est-à-dire Strategic Lawsuit Against Public Participation.
Ah oui, c'est-à-dire où on cherche à museler juridiquement les groupes.
En arguant qu'ils nuisent à l'image publique.
Voilà. C'est ça. Alors ça, c'est un enjeu actuel. Là, c'est débattu actuellement à l'Assemblée nationale, dans les commissions des institutions. Et c'est bien la preuve que les marges de manœuvre elles sont éventuellement réduites si on touche à des vraies affaires. Dès qu'il est question, par exemple, de remettre en cause l'installation d'un site d'enfouissement parce que ça nuit à la qualité de l'environnement, ben là, on touche à quelque chose de gros, puis on risque d'être poursuivi. Et dans le contexte des traités de libre-échange aussi, il n'était pas exclu que des entreprises hors du pays puissent intenter des poursuites contre les gouvernements étrangers. Hein? Il y a eu, dans le contexte des traités de libre-échange, des idées semblables qui ont circulé.
En terminant, messieurs, vous parliez d'émotions tout à l'heure suscitées par le travail que vous avez fait là d'analyse de ces affiches. Francis Dupuy-Déry, laquelle vous a le plus ému? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a...
Non, c'est pas une compétition. Là, j'avais pas prévu la remise de prix.
Le but, c'est pas de remettre un prix. Là, c'est plutôt... d'identifier une affiche et une cause en particulier. Oui, vous, en avez-vous un, Jean-Pierre Boyer?
Oui, moi, c'est une toute petite image là qui est utopiste debout. Parce que c'est quelque chose
qui est très simple.
Oui, c'est la dernière
image. C'est la dernière. Hein.
Et c'est quelque chose de très simple, mais qui, en même temps, a un impact considérable et sous un mode non propagandiste, justement. Parce que l'utopie, c'est la mémoire des rêves qui n'ont pas encore été réalisés. Et je pense que ce livre est un peu un hommage à tous ceux et celles qui, à travers les 40 ans d'histoire couverts dans ce livre, on se sont tenus debout et ont insisté pour faire leur contribution pour le changement social.
Utopiste debout, qui est extraordinairement minimaliste. Là. C'est très simple. C'est deux mots. C'est une carte postale et c'est deux mots sur un fond uniforme d'une seule couleur. Ça date de 1993. À tous les trois, mille merci d'avoir été là. Je rappelle que c'est donc Jean-Pierre Boyer, co-auteur de cet ouvrage, co-fondateur également du Centre de recherche en imagerie populaire d'où proviennent les affiches et professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Normand Baillargeon, Francis Dupuis-Déry, tous deux professeurs aussi à l'UQAM, ont signé des textes. Donc, et je rappelle dans cet ouvrage, merci à tous les deux, merci en fait à tous les trois, et je rappelle le titre « Affiches des mouvements sociaux au Québec 1966-2007 » chez Lux Éditeur.
Au revoir.
Au revoir. Merci.